Bonjour chers auditeurs, vous écoutez l'émission La Bible en question, au micro Catherine Mann et Anne-Marie Arbitre. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Catherine, bonjour à tous, ravie d'être avec vous.
Voilà, lors de la précédente émission, nous avions commencé une nouvelle réflexion à partir des textes de la Bible en nous demandant comment la Bible aborde les problèmes éthiques. Et pour cela, nous nous aidons d'un livre de la grande théologienne et bibliste Anne-Marie Pelletier, dont le titre est « Débat éthique, sagesse biblique », qui est paru en 2018 aux éditions Salvatore. La réflexion éthique est à la pointe de l'actualité à cause des avancées scientifiques contemporaines, que ce soit les progrès des biotechnologies en matière de procréation, les avancées de la génétique, celles de l'intelligence artificielle ou les fantasmes d'immortalité que nous propose le transhumanisme. Tout cela nous concernera plus ou moins, un jour ou l'autre, et nous devons y réfléchir sérieusement pour pouvoir y faire face avec un authentique sens des responsabilités. Voilà pourquoi nous nous questionnons à partir des textes bibliques pour y trouver des repères humains et des repères spirituels, peut-être une aide pour être plus efficace dans les débats contemporains. Et même si les réponses ne sont pas toujours évidentes, nous avons vu, surtout grâce à Anne-Marie Pelletier, que la sagesse biblique peut nous apporter beaucoup en matière d'éthique.
Oui, mais à condition bien sûr de ne pas faire une lecture fondamentaliste des textes, car bien évidemment on ne trouve pas de réponse toute faite aux questions d'aujourd'hui. Il faut élaborer une réflexion fondée sur la parole de Dieu et principalement donc sur les écrits de la sagesse. Ceci explore toutes les grandes questions éternelles de l'humanité. De fait, même si les circonstances historiques sont différentes, bien sûr, on peut toujours retrouver les constantes fondamentales qui peuvent servir de repères pour les problèmes contemporains. Les réalités spirituelles sont universelles et toujours actuelles. Alors, nous avons déjà vu que la sagesse, c'est l'art d'inviter la présence de Dieu dans nos vies. Cela donc oblige à un esprit d'ouverture qui doit déboucher nécessairement sur un souci de rencontre et de dialogue. Donc la première qualité essentielle pour la sagesse est de savoir cultiver la relation, ce qui suppose bien sûr diplomatie, souplesse, respect de toutes les différences. L'art des bonnes relations permet alors des débats normalement sans fanatisme, dans le calme, donc ce calme est indispensable à la clairvoyance. Il faut donc d'abord être capable d'écouter pour aborder clairement les réalités des situations, sans préjugés. Ce qui est en jeu, c'est être capable d'avoir une vision globale de l'humain, comme l'expliquait déjà le pape François dans son encyclique Laudato Si, en parlant d'écologie intégrale. La grande question est d'arriver à saisir la totalité de tout ce qui menace, abîme ou pervertit la vie, de tout ce qui fait atteinte à l'humanité, en fin de compte.
Ce qui nous dit déjà que c'est d'abord en Dieu ou par Dieu que nous pourrons retrouver le sens de l'unité et de l'harmonie dans la création. L'équilibre a été rompu par ce qu'on appelle le péché originel, et c'est en revenant d'abord à la source, à l'origine de la création, que nous devons commencer la réflexion. Et pour cela, dans la Bible, la méditation des premiers chapitres de la Genèse reste évidemment la source inépuisable. Ces récits de création nous disent qu'à l'origine est la relation. La relation entre Dieu et les créatures, entre l'homme et la nature, et puis entre l'homme et la femme. Et enfin, la relation pervertie avec le serpent, symbole de tout ce qui va apporter le déséquilibre dans ces relations. Nous devons voir d'abord comment l'acte créateur de Dieu fait sortir du chaos originel l'indifférencié par sa parole qui, en nommant, sépare la créature, fait surgir du fond informe pour la faire advenir en tant que sujet. Et cet acte de différenciation va appeler forcément la rencontre et permettre la relation. Donc, nous devons être bien conscients de la spécificité de cette vision de Dieu créateur de relations telle que la Bible nous la présente. Parce que d'autres religions vont au contraire proposer de fuir et de refuser cette distinction originelle pour prôner le retour à l'un, l'indifférencié. Et donc c'est déjà un fondement de la foi chrétienne que de comprendre l'importance de la parole de Dieu qui donne vie à des identités séparées et appelées à la relation, à l'alliance.
Et de surcroît, l'humain est créé à l'image de Dieu, hein, comme nous dit le texte de la Genèse dans le chapitre 1, verset 27, je vous le relis. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, il les créa, hommes et femmes. Alors, ce qui signifie deux choses. Hein. D'abord, qu'en Dieu, il y a une possibilité de distinction entre au moins deux personnes différentes. Ce qui nous sera confirmé plus tard dans la théologie trinitaire, hein, qui voit en Dieu unité, diversité de trois personnes divines, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et cette théologie révèle le mystère d'une relation d'amour éternel au cœur même de la vie divine. Et donc, cette vie divine va se concrétiser par la création d'une humanité différenciée, hein, en masculin-féminin, en homme-femme, appelée à témoigner de la relation d'amour qui est en Dieu et qui doit se réaliser par l'alliance conjugale. Ainsi, l'humanité est dès l'origine articulée intérieurement par une différence qui lui donne une identité relationnelle. Toute la Bible va s'appuyer sur cette symbolique, hein, du couple pour expliciter le déploiement des alliances successives entre Dieu et l'humanité, bien sûr jusqu'à la nouvelle alliance, hein, dans la personne de Jésus-Christ, qui aura comme vis-à-vis l'Église, hein, considérée comme son épouse. Donc une identité humaine à l'image de Dieu ne peut donc qu'être engendrée par le respect de l'altérité, la rencontre, hein, et la relation qui en découle, bien sûr.
Oui, on devrait faire référence ici à l'œuvre d'Emmanuel Lévinas, ce grand penseur juif qui a mis en évidence le rapport entre le visage de l'autre et la rencontre de Dieu. L'éthique commence là où il y a respect d'une altérité irréductible du prochain. Sinon, la tentation totalitaire immédiatement surgit, celle qui veut dominer tout ce qui paraît étranger, qui veut gommer les différences et imposer un modèle unique au comportement humain. Donc nous devons être d'une vigilance extrême vis-à-vis de ce penchant dominateur, parce qu'il semble tellement naturel. Il se glisse partout et prend ces aspects séduisants qui rappellent que l'action du serpent est peut-être encore d'actualité aujourd'hui. Anne-Marie Pelletier insiste sur la qualité première de la relation qui doit être l'écoute. L'écoute de la vérité de l'autre, avant de projeter sur lui des préjugés et de vouloir agir pour transformer autrui en un identique à moi-même. Elle nous rappelle que la lecture de la Bible doit être pour nous un appel à conversion, c'est-à-dire d'abord voir comment éventuellement accepter de changer soi-même avant de vouloir changer l'autre. C'est peut-être le moment de se rappeler la parabole assez ironique de Jésus dans Matthieu chapitre 7. « Tu regardes la paille dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil. Tu ne la remarques pas ? Comment vas-tu dire à ton frère, « Laisse-moi enlever la paille de ton œil. » Enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu y verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Écoutez Radio Grand Ciel, l'émission La Bible en question sur le nouveau thème que nous venons d'aborder, c'est-à-dire l'éthique dans la Bible, en nous aidant du livre d'Anne-Marie Pelletier, Débat éthique et sagesse biblique. Pour le moment, ce qui nous paraît évident, c'est que l'humanité a des caractéristiques proprement divines, puisque dans le projet de la création, Dieu a voulu que la relation soit le fondement de sa vie, en particulier la relation masculin-féminin qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu, ainsi que le dit le livre de la Genèse. Pourtant, aussitôt après, la Bible nous montre la chute originelle, le péché qui vient détruire l'harmonie de cette relation, et tout au long des Écritures va se poser la question du juste rapport entre les hommes et les femmes. On voit bien dans les textes que c'est la domination masculine qui s'impose et que le rôle dévolu à la femme est assez dévalorisé. Il suffit de penser à la polygamie des patriarches bibliques, qui est assez loin de notre idéal actuel d'un couple heureux.
Oui, on peut en effet se demander quelle peut être, par exemple, la dignité des femmes du roi Salomon, dont la Bible nous dit qu'il eut 700 épouses légitimes, plus 300 concubines. Alors, évidemment, bon, la quantité de femmes est uniquement là pour montrer la richesse du roi. Hein, ce sont voilà, de simples signes extérieurs de richesse, des possessions, parmi d'autres, mises en parallèle avec le bétail, les chars ou les chevaux de la guerre. Dès lors, il semble difficile d'imaginer une vraie relation de couple, hein, quand même, chaque femme ayant finalement comme seule fonction hein, d'engendrer le plus de fils possible pour démultiplier la puissance masculine de la société. Alors, cette dévalorisation des femmes existe bien sûr dans presque toutes les cultures. Hein. Mais il semble que la Bible propose justement de faire évoluer progressivement les choses hein, pour atteindre l'idéal de la relation d'amour de deux personnes distinctes, différentes, mais d'égale importance. Rappelons que Jésus hein, s'est prononcé pour cela d'une façon très claire. Hein. Je vous lis Matthieu chapitre 19, versets 3 à 5. Voilà ce qu'il dit. N'avez-vous pas lu ceci ? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes, et dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair.
Oui, rappelons que c'est dans un passage où il est question du divorce que Jésus répond ça. Et il ajoute « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas ». On a retenu l'interdit de séparation, mais on a peut-être oublié l'unité, l'importance qu'il apportait à la bonne relation de couple. Ça n'empêche quand même pas Jésus d'être lucide sur l'état de l'humanité, puisqu'il dit aux pharisiens qui rechignent, je lis le verset 8, « C'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes ». Mais au commencement, donc Genèse, il n'en était pas ainsi. Ces paroles de Jésus nous montrent également la valeur qu'il donnait au texte de la Genèse, qui établit donc cette relation homme-femme. Le problème est que même ses disciples n'arrivent pas à comprendre cela, puisque ceux-ci disent ensuite à Jésus, je vous lis verset 10, « Si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. » Et de fait, Jésus va répondre, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui c'est donné. » Et il admet que le célibat est une chose qui peut exister pour des raisons physiologiques d'abord, mais aussi qu'il est possible de choisir le célibat à cause, dit-il, du royaume des cieux. Reste que nous sommes là devant un vrai problème, puisque Jésus ajoute encore « Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne ». Ce qui prouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui peut comprendre. À travers les âges, en tout cas, l'Église en a tiré un enseignement sur la valeur du célibat religieux et sacerdotal.
Oui, ce qui n'a forcément pas rendu plus facile le rapport homme-femme dans l'Église. On voit d'ailleurs actuellement revenir en force une volonté de claire séparation et de mise à l'écart des femmes. Dans la liturgie, par exemple, puisqu'on a, dans beaucoup d'endroits, renoncé à la mixité des servants d'autel, en assignant aux filles un rôle de servante d'assemblée. Alors, cette nouveauté fait couler beaucoup d'encre, car elle n'est pas acceptée par tous les chrétiens, quand même. Certains y voyant une discrimination inacceptable. Enfin, tout cela prouve, en tout cas, que la question de la juste relation homme-femme n'est pas encore résolue dans l'Église. Est-ce que la ségrégation du féminin, l'assignation des femmes à des rôles subalternes, pourrait faire avancer le projet divin de conduire l'humanité à sa plénitude grâce à une dimension relationnelle accomplie? Évidemment non, hein. Anne-Marie Pelletier nous aide à comprendre ce qui devrait être le juste fonctionnement de cette relation. Elle nous fait comprendre que l'identité de tout être humain, féminin autant que masculin, doit se construire au risque de l'autre. Hein, je la cite là, au risque de l'autre. Et que tout repli identitaire, sous forme d'autodéfense, de protection de soi, en terrain bien connu, c'est-à-dire tous les comportements qui refusent la périlleuse fréquentation de tout ce qui semble trop étranger, c'est là hein, une certaine inversion du sens des textes bibliques.
Hein. Ah oui, le problème n'est pas nouveau. Hein. Il n'y a qu'à relire l'histoire des refus d'Israël dans la Bible pour voir à quel point les hommes sont récalcitrants au changement, y compris donc les disciples de Jésus qui rechignent devant les difficultés du mariage, et les femmes elles-mêmes qui résistent au changement en survalorisant le rôle social auquel elles sont habituées. De nos jours, il n'est pas facile quand même de refuser, de justifier le refus de la mixité. Parce que ça, dans l'institution ecclésiale, si ça existe, c'est quand même tout à fait opposé à la société ambiante. Il semble quand même, pour le monde profane, que l'humanité a tout à gagner en acceptant la confrontation des différences. L'expérience a montré depuis quand même quelques dizaines d'années que toutes les professions jadis interdites aux femmes ont gagné en compétences en s'ouvrant à la mixité. Le pape François lui-même reconnaît qu'il faudrait donner plus de place aux femmes dans l'Église parce qu'elles pourraient apporter quelque chose d'utile pour tous par leurs qualités propres et leurs dons particuliers. Donc ce serait un progrès certain pour l'humanité, puisque c'est en vivant ensemble les différences que l'on peut améliorer les relations et grandir dans la ressemblance divine. Mais ça marche pas trop, hein. Et surtout, comme le dit Anne-Marie Pelletier, la collaboration des différences ajoute une dimension fondamentale essentielle à l'humanisation, c'est l'expérience de la limite. Une limitation de soi acceptée pour laisser place à l'autre.
Oui, effectivement, là, Anne-Marie Pelletier insiste hein, sur cette nécessaire expérience de la limite. Elle dit que cet aspect de la relation, je la cite, constitue une véritable pierre de touche dans la contribution de la Bible à l'intelligence anthropologique. Alors cela veut dire que l'être humain ne peut trouver sa vérité qu'en acceptant de n'être pas tout, hein, et que c'est précisément ce qu'implique la condition de créature appelée à exister en relation avec un autre que soi. Et cela va loin, hein, puisque dans cette acceptation de la limite se trouve aussi, bien sûr, la relation à Dieu. C'est lié à la conscience hein, d'être une créature, acceptant de toujours recevoir la grâce hein, de vivre par la volonté bienveillante de Dieu. Alors on trouve cela dans le texte biblique, hein, lorsque Dieu place Adam dans le jardin d'Éden en lui disant « Tu peux manger de tous les arbres du jardin. » Mais ajoute aussitôt à la restriction « De l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, tu ne mangeras pas. » Alors l'explication est donnée par Paul Beauchamp, hein, qui commande cette restriction de façon concise par la formule « À l'homme est donné tout, sauf tout. » C'est donc l'interdit de posséder la totalité et l'obligation de l'incomplétude hein, du destin humain. Être humain, c'est se recevoir d'un autre, et cela se joue aussi dans les relations humaines, toujours en interdépendance.
Vous écoutez l'émission La Bible en question, donc à propos de la relation entre sagesse de la Bible et éthique dans les relations humaines. Et nous venons de voir qu'une clé de compréhension se trouve dans le consentement à la limite, limite créée par le respect de la volonté du Créateur, mais aussi par le respect de l'altérité du prochain humain et surtout d'abord du prochain le plus différent, c'est-à-dire celui du sexe opposé. Cette acceptation de la limitation de soi est un aspect fondamental de la relation. C'est savoir se retirer pour que l'autre existe. Et d'ailleurs, la tradition de l'Église nous dit que Dieu lui-même se retire dans une sorte de contraction de lui-même pour que la création puisse exister en face de lui. Le judaïsme déjà enseigne cela sous le nom de Tzimtzum divin, le retrait de Dieu, d'une racine Tzama qui est celle du jeûne, jeûner, d'où l'importance symbolique du jeûne comme apprentissage de la limitation de soi. On comprend bien alors la force du carême pour creuser en soi un manque qui sera comblé par la présence de Dieu.
Oui, mais c'est un apprentissage de tous les instants hein, dans la relation aux autres. Car la tentation première est quand même généralement de vouloir s'imposer, hein, de remplir tout l'espace en s'affirmant. En tout cas, c'est ce qui se passe à l'origine, hein, dans le péché originel. Il s'agit donc, là je vous cite toujours Anne-Marie Pelletier, d'une révolte contre le Créateur qui empêche l'homme d'être sa propre source et contre cet autre, donc homme si je suis femme, femme si je suis homme, dont le vis-à-vis est la première occasion de cette blessure narcissique que constitue la renonciation à être tout. Alors la formulation « blessure narcissique » est un peu savante, hein, signifie tout simplement que l'orgueil hein, qui remplit le cœur de l'homme fait qu'il ne supporte pas hein, d'être une simple créature dépendante de Dieu. Mais cette blessure de l'orgueil n'est pas le fait d'un Dieu jaloux hein, qui veut s'imposer et maintenir l'humanité dans l'infériorité. C'est au contraire la possibilité de recevoir la grâce de Dieu qui sans fin veut se transmettre à ses créatures. L'humain est fait pour une relation à Dieu et non pas pour être tout, en prenant la place de Dieu. Donc la limite va avec la grâce, mais cela demande bien sûr le consentement humain. Et pour permettre de s'exercer à ce consentement, Dieu crée donc le masculin et le féminin, de sorte que l'homme seul ne peut être l'humanité, ni d'ailleurs la femme seule. Il ne peut y avoir d'humanité sans la rencontre d'un homme et d'une femme, pour engendrer, bien sûr.
Ben déjà, oui, c'est bien là que nous croisons directement le problème éthique contemporain. On peut dire qu'il y a un parallèle avec l'orgueil du péché originel dès que l'accueil de l'altérité est mis à mal. Le vis-à-vis de l'homme et de la femme devient alors un rapport un peu de violence ou une volonté de domination, de possession ou une séduction perverse. En tout cas, sans l'acceptation de la limite, toute l'harmonie dans la différence des sexes est impossible. Puis, quand le chaos s'installe dans cette relation humaine de fond, ben, toutes les autres aberrations en découlent. Alors, il est bien sûr impossible de définir les aberrations d'une manière générale. En matière d'éthique, il n'y a que des cas particuliers. Il faut d'abord s'exercer à un profond discernement des situations personnelles. Mais un critère de discernement essentiel semble d'abord de voir s'il y a justement cette volonté d'occuper l'espace de la décision tout seul et agir à l'exclusion de Dieu. Sans l'invitation de la présence et de la parole de Dieu, toute entreprise humaine, aussi scientifique soit-elle, risque de n'être qu'une manifestation de l'orgueil humain. Là, je prends le psaume 127. Hein. « Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. » Notons que ce thème de la désobéissance, de la révolte, de l'infidélité à Dieu est la trame de toute la Bible. C'est le peuple d'Israël qui sert de révélateur à cette tentation humaine comme peuple à la nucrède, mais finalement, nous sommes tous ce peuple à la nucrède.
Voilà, c'est bien ce qui rend aussi difficile le discernement. Hein. On peut toujours trouver une bonne raison à la transgression de la volonté divine. Mais comment évaluer la légitimité de cette bonne raison? Par exemple, quand on parle de désir d'enfant, est-ce bien légitime ou est-ce la marque d'un égoïsme qui met en premier le désir personnel hein, avant de savoir si cela correspond vraiment à une volonté de Dieu? Surtout du côté féminin. Maintenant, on vient aussi par rapport au masculin. Donc du côté féminin, ce désir de maternité est-il biologique, physiologique ou correspond-il à une nécessité sociologique? Alors, la Bible est traversée d'histoires de femmes stériles qui pleurent toutes les larmes de leur corps pour avoir un enfant. Mais au moins, là, leurs larmes, elles s'adressent à Dieu, dans la prière. Et ces histoires de femmes stériles finissent toujours par une intervention miraculeuse, ce qui fait généralement que la femme donne naissance ensuite à un être d'exception au destin important pour l'histoire du peuple hébreu. Mais de nos jours, quand une femme veut à tout prix un enfant, c'est bien différent. D'abord, bien souvent, elle veut, donc elle exige, en s'adressant là, non pas à Dieu, mais donc à des scientifiques. Et comme cette femme veut à tout prix, donc on insiste bien sur le prix, il y a toujours, d'autre part, quelques spéculations financières qui interviennent en face d'elle pour tirer parti de ce désir. Donc dans toutes ces tractations, l'enfant n'est-il pas réduit simplement au rang d'objet acheté? N'est-il pas plutôt chosifié plutôt qu'un être humain?
Ben oui, c'est ça. C'est vrai que beaucoup de problèmes éthiques qui se posent aujourd'hui viennent de ce désir d'être mère, apparemment. Et on n'ose pas forcément s'interroger sur le bien fondé de ce désir, parce qu'il apparaît comme un droit naturel auquel on est obligé, on se sent obligé de répondre. Mais peut-être qu'une exploration des motivations profondes révélerait, dans certains cas en tout cas, qu'il s'agit aussi d'une forme de narcissisme, d'un égocentrisme gratifiant, dans lequel la vie de l'enfant n'a pas vraiment d'importance. C'est d'autant plus vrai dans les cas où il n'y a pas d'homme directement impliqué dans la demande d'enfant. Je sais pas, l'insémination artificielle, PMA, voire même GPA, tout permet d'ignorer la limite fondamentale que Dieu demande dès la création du monde, qui est celle de réussir d'abord une relation entre un homme et une femme pour pouvoir non seulement engendrer un enfant, mais ensuite lui assurer une croissance, une éducation et un avenir heureux. Il n'est pas certain, par exemple, que la fabrication en série de familles monoparentales, comme on dit maintenant, soit une bonne chose pour notre société. Pas plus d'ailleurs que ne l'est le développement du concept aussi nouveau de famille homoparentale, même si à courte vue, les enfants n'y sont pas forcément malheureux. On joue vraiment les apprentis sorciers pour ce qui concerne les conséquences à long terme.
Voilà. Donc nous avons toujours à nous poser la question, comment Dieu veut-il intervenir dans nos vies aujourd'hui pour faire avancer le monde vers un équilibre harmonieux dans le respect des différences? On voit encore une fois qu'il n'est pas forcément bon de se précipiter sur des solutions rapides, immédiates, mais qui vont repousser les difficultés à plus tard. La référence à la Bible, entre autres, permet de réfléchir pour orienter nos voies vers un idéal d'alliance dans lequel les identités différentes sont à la fois confirmées et fortifiées, tout en construisant une unité par de justes relations. Il faudrait sans doute, pour cela, redonner de l'importance au sens des responsabilités pour des engagements à long terme. Surtout dans notre monde, où tout semble devoir être rapide, superficiel, et axé sur une jouissance immédiate. C'est peut-être là un enjeu pour les chrétiens, d'arriver à implanter cet idéal de société plus stable, plus paisible, mais bien sûr sans entrer en conflit frontal avec notre modernité, puisque nous devons nous-mêmes mettre en pratique l'acceptation de la limite qui permet à l'autre d'exister dans une saine relation. Enfin, tout cela ne semble pas très, très évident.
Ben voilà, c'est un programme à réfléchir. Ça nous donne du grain à moudre pour mener plus loin cette réflexion, l'éthique et la Bible. Et nous verrons cela dans nos prochaines émissions. À présent, nous vous disons au revoir, chers auditeurs, et à très bientôt.
Au revoir, Catherine. Au revoir à tous. À bientôt.
On a débordé.